Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Pour le message de ce matin, je me suis largement inspiré d'un dossier préparé par un groupe de personnes de notre Église qui ont à cœur une réflexion autour du thème « Prendre soin de la création ». C'est un gros dossier qui est accessible sur le site des éditions Mélodie, par exemple. C'est aujourd'hui notre fête des moissons, un culte de reconnaissance qui met en avant ce que la création peut produire et que nous souhaitons partager et redistribuer à l'issue de notre rencontre de ce matin, comme on l'a déjà dit. Je vous invite à lire dans Luc 14, les versets 16 à 30. Luc 4, versets 16 à 30. Donc c'est de Jésus dont il s'agit. Et il est dit, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient des regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe « Médecin, guéris-toi toi-même » et vous me direz « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaüm. » Mais, ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. L'Esprit Saint est descendu sur Jésus lors de son baptême, puis il l'a conduit au désert pour éprouver sa vocation. Jésus retourne en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Son rayonnement est contagieux au point que le bruit s'en répandit dans toute la région. Jésus revient en Galilée à Nazareth où il a grandi et se permet de lire dans le livre d'Ésaïe 61 les versets 1 et 2. Jésus publie une année de grâce du Seigneur. Bonne nouvelle aux pauvres, délivrance des captifs, retour à la vue des aveugles et libération des opprimés. Après un temps de silence puis d'explication, Jésus annonce clairement qu'il n'est pas là pour arranger les petites affaires des uns et des autres. Tiens, tiens. Il évoque Élie et la veuve de Sarepta, ainsi que Naaman le Syrien guéri du temps d'Élisée, pour bien insister que la bonne nouvelle de l'Évangile est pour toutes les nations de la terre et pas seulement pour les copains de Nazareth et le peuple d'Israël. L'année de grâce du Seigneur concerne tous les humains. Insupportable à entendre pour ceux qui étaient dans la synagogue. De colère, ils sont à deux doigts de mettre fin à ses jours et à son ministère. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Jésus vient d'annoncer une année de grâce, une année d'accueil, une année favorable. Les captifs, les aveugles et les opprimés sont bénéficiaires de la bonne nouvelle. Nous sommes tous concernés. La bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ élargit notre cœur de pauvre, renouvelle notre regard sur le monde façonné par notre éducation et notre culture et nous libère de nos addictions et de nos préjugés qui nous enferment. Clairement, cette proclamation d'Ésaïe, reprise par Jésus, fait référence à cette année du jubilé que Dieu a instituée avant que son peuple ne s'installe en terre promise du temps de Moïse et de Josué. Au fur et à mesure de notre méditation de ce matin, nous lirons des extraits du chapitre 25 du Lévitique. On va commencer par les versets 1 à 7. Donc Lévitique 25, les versets 1 à 7. L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. La première année après la conquête de la terre promise donnée par Dieu à son peuple est une année de repos pour la terre. Ce pays de Canaan, de bonne réputation, où coule le lait et le miel, subviendra naturellement aux besoins des Israélites la première année. Ensuite, un rythme est institué. 6 années de travail pour produire et combler les besoins matériels des uns et des autres, suivi d'une année de repos. Le projet de Dieu est une alternance de travail et de repos. Le temps de repos pour l'humain doit lui permettre de prendre du recul, d'entrer en relation avec le Créateur et d'entretenir, d'améliorer son relationnel avec son prochain. Dès le début de ce chapitre, nous constatons une communauté de destin entre le peuple d'Israël, l'humain, et la terre, le sol. Les matières premières, les ressources naturelles, les services, l'univers matériel a besoin de repos, au même titre que les humains. Notre existence est faite de relations entre nous, de relations avec notre Dieu créateur, et de relations avec l'univers matériel, dont nous dépendons complètement pour survivre. Versets 3 à 5, le texte évoque une période de prévoyance, semer, tailler, récolter, et une période d'imprévoyance. On se contente de ce que la terre donne spontanément. Dans cette 7e année, l'année sabbatique, l'humain se trouve en situation de fragilité et de dépendance au même titre que l'immigré, la veuve ou l'orphelin. Pour survivre, l'individu dépend alors de la générosité des autres. Le partage de l'accès aux ressources est nécessaire selon la volonté de Dieu et garantit l'égalité entre tous. Le devoir de solidarité rappelle de manière concrète et physique notre dépendance au Dieu créateur. Les versets 6 et 7 insistent sur la communauté de destin de tout ce qui vit. Toi, ton serviteur, ta servante, ton mercenaire, l'étranger qui demeure avec toi, ton bétail et même les animaux qui sont dans ton pays. Interdépendance, solidarité, partage des ressources, c'est la volonté de Dieu pour son peuple, génération après génération. Il y a dans le sabbat une dimension sociale qui inclut le partage de la richesse entre les humains et une dimension écologique qui inclut tous les vivants. La terre et la vie qu'elle contient, ainsi que le bétail et les animaux sauvages qui, eux aussi, ont un espace de vie, de nourriture et de repos. Une maison commune, un bien commun, un espace de vie à partager, c'est le sens de l'année sabbatique. Cette notion est bien loin du protectionnisme, de l'isolationnisme et de l'illusion du nationalisme proposé comme solution au problème de la société par certains. Exode 23, versets 11 et 12, nous lisons déjà. Mais la septième année, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Le repos pour tous. Une alternance de travail et de repos à l'image de Dieu qui crée pendant un temps et se repose, parce que ce qu'il a créé fonctionne, perpétue la vie et fonctionne éternellement. C'est rassurant. C'est un vrai remède pour combattre l'éco-anxiété, nouvelle maladie du 21e siècle. Genèse 1, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Juste après qu'il eut créé les êtres humains, hommes et femmes. Permettez-moi une petite parenthèse sur le monde vivant, monde animal, monde végétal, si divers et tellement unique. Le sol, le sous-sol, la situation géographique, le climat génèrent des biotopes divers et variés. Seules les espèces adaptées à leur milieu, leur biotope comme on dit, capables de se nourrir et de se reproduire subsistent. Si une espèce est présente, c'est qu'elle est adaptée au milieu dans lequel elle se trouve. Seule la pression de sélection exercée par l'environnement permet ou non à une espèce de se perpétuer. La biodiversité est en danger du fait de changements de l'environnement, température, humidité, de la présence ou de l'absence de prédateurs ou de modifications physiques d'un terrain, aménagement, construction, catastrophe naturelle. Nous sommes plus sensibles à la disparition de mammifères grands et petits ou de certains oiseaux, voire d'insectes comme les abeilles, qui contribuent par la pollinisation à la production de beaucoup de fruits et de légumes. La pression exercée par le développement de l'activité humaine modifie l'environnement sans aucune contestation. J'irais même jusqu'à dire, c'est pas dans la Bible ce de moi, le bipède nuisible qui prolifère à la surface de la Terre contribue à la plupart des maux qui affectent notre planète au 20e et 21e siècle. Le bipède nuisible. Un machin à deux pattes là qui promet partout. Excusez-moi. Cela n'empêche pas d'affirmer que ce que Dieu a créé était très bon. Le jour, la nuit, l'été, l'hiver, la terre, la mer, le cycle de l'eau, le cycle du carbone, photosynthèse en particulier, sont immuables. Le monde vivant se perpétue par la réplication de l'ADN, code génétique, quelle que soit l'espèce, la multiplication cellulaire, ce qu'on appelle la mitose, et le mélange des ADN, des chromosomes, suite à la fabrication des gamètes, ce qu'on appelle la méiose, et leur fusion, la fécondation. Mais je ne vais pas vous faire un cours de Dieu. Ça marche depuis la nuit des temps, et ça continuera de fonctionner selon la création et la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui marche ? Oups, j'ai sorti. C'est quoi ?
Un écho
d'air. C'est un les humains. C'est un rideau, exactement. J'ai rien fait là. Bon, à l'intérieur de ce rideau qui est un légume, on trouve. Normalement, les fraises.
L'autre.
Ah ouais, ouais, ouais.
Non, mais le truc, c'est pas
vrai. Ah non, c'est chaud. Voilà, là-dedans, il y a une graine. Salut. Et dans la graine, quand on regarde bien, il y a déjà un endroit ici, c'est un germe. C'est ce qui va pousser l'année prochaine si on le laisse sécher et si on le remet dans la terre. Voilà. Ça, c'est la création qui a fait ça et ça marche l'année en Je remonte. Ce que Dieu a créé reste à perpétuité. Ce que l'homme rebellé contre Dieu en fait n'est pas sans conséquence pour lui-même et pour la planète, c'est une certitude. Mais le projet de Dieu est la restauration, la guérison de tous ces maux qui nous affectent. Nous continuons la lecture dans le Lévitique 25, les versets 8 à 22. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte, vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras, car c'est le nombre de récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez mes lois en pratique et observez mes ordonnances et mettez-les en pratique et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point, nous ne ferons point nos récoltes, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte. Vous mangerez de l'ancienne. Tous les 50 ans, on remet les compteurs à zéro. Il semblerait que cette loi n'ait pas été appliquée souvent au cours de l'histoire du peuple d'Israël. À la fin de la conquête du pays, Josué a organisé et validé le partage du territoire pour que chaque tribu dispose de moyens de production adaptés. Il était bien clair que le pays appartenait à Dieu et que chacun n'était que le gérant temporaire de son champ et de son troupeau. Les aléas de la vie et les opportunités économiques conduisent à des enrichissements et des appauvrissements au fur et à mesure du temps qui passe. Mais l'année du jubilé, tous les 50 ans qui suit l'année sabbatique, le repos de la terre se poursuit, les dettes sont annulées et chacun retrouve un lopin de terre identique à celui qui était attribué initialement. Il n'est pas question d'autoriser ou de tolérer une accumulation de richesses par une minorité dont les descendants bénéficieraient par héritage. Tous les 50 ans, chacun retourne dans sa propriété et chacun retournera dans sa famille, quelles que soient les bonnes ou mauvaises affaires qu'il ait pu faire. Le jubilé commence le jour des expiations ou le jour du grand pardon. Dieu accorde le pardon. Les fautes sont pardonnées, les dettes sont effacées. Ce sont deux manières de dire la même chose, pardonner les fautes ou effacer les dettes. Comme Dieu a pardonné nos fautes, effacé nos dettes, nous pardonnons aux autres et nous effaçons les dettes que les autres ont envers nous. La prière de Jésus que nous avons prononcée tout à l'heure nous a laissé La prière que Jésus nous a laissée a changé le rythme. On n'attend pas 50 ans pour mettre le compteur à zéro. C'est comme le pain quotidien. Nous demandons pardon pour nos offenses et dans la foulée, nous accordons quotidiennement le pardon à ceux qui nous ont offensés. C'est une mise en œuvre du jubilé. Nous avons tendance à ne retenir que le côté spirituel, le côté abstrait, le côté de l'humain qui réfléchit en dehors de l'humain, avec son corps et dans un environnement matériel réel. Mais le projet de Dieu concerne à la fois notre humanité spirituelle et notre humanité corporelle et sociale, dans un environnement réel et concret. Notre civilisation, influencée de cultures grecques remises au goût du jour par le siècle dit des Lumières, sépare le corps et l'esprit. La pensée du Dieu de la Bible, l'enseignement de Jésus respecte et ne sépare pas le corps et l'esprit. Quand il dit « ta foi t'a sauvé », en même temps, le corps est réparé. Le paralysé qui marche, l'aveugle qui recouvre la vue et la femme atteinte d'une perte de sang qui est guérie physiquement. Le sabbat, le jubilé, c'est pour le corps et pour l'âme. Le jubilé, c'est une triple promesse. Une promesse de fertilité, de rendement. La 48e année est produite pour 3 ans. Ça perturbe notre sens de la régularité et de la maîtrise. C'est l'opposé de seule la croissance économique, l'augmentation du PIB nous assurera le bien-être matériel. Entre nous, au fur et à mesure du temps qui passe, des années qui se succèdent, on sent bien que nous sommes dans une logique qui ne débouche sur pas grand-chose, si ce n'est un accroissement des inégalités et beaucoup de misère humaine. Vous habiterez en sécurité, deuxième promesse. Aucun sous-prolétariat permanent de famille asservie ne pouvait se sentir opprimé par la transmission linéaire des privilèges. La solidarité ne serait pas sapée par le ressentiment à la vue des injustices. C'est le partage des richesses et la justice qui favorise la paix et la sécurité. Romains 14, verset 17, nous dit « Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans l'Esprit Saint. » Lévitique 25, les versets 17 à 19, fait le lien. Voilà. « Aucun de vous ne trompera son prochain et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Mettez les lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Troisième promesse, Dieu a fait une alliance avec tout son peuple et le peuple a fait alliance ensemble avec Dieu et aussi chacun avec l'autre. De fait, une très grande disparité de richesses produit automatiquement des très pauvres qui ne s'identifient plus au groupe et sortent de facto de l'alliance avec les autres, et ainsi aussi avec Dieu. Le jubilé doit empêcher cette évolution. L'alliance a besoin d'une adhésion libre de tous, même des plus faibles. Le jubilé devait servir ce but chez les Hébreux. Du jubilé au salut. Dans le Nouveau Testament, Jésus reprend les promesses de l'année sabbatique et du jubilé lors de son intervention inaugurale dans la synagogue de Nazareth. Cet épisode intervient après que Jésus a été tenté par le diable dans le désert pendant 40 jours. On peut faire un parallèle avec les 40 ans d'errance d'Israël qui ont précédé son entrée dans le pays promis, dans le pays du jubilé. Plus concrètement, et actuellement, cette instauration du jubilé tous les 50 ans nous interpelle sur notre façon de vivre qui associe Dieu, notre prochain et la création. La pratique du jubilé nous aide à retrouver l'interdépendance du corps et de l'esprit, du matériel et du spirituel. La pratique du jubilé est l'annonce du salut qui inclut le respect de toute la création. Cela nous amène à vivre une écologie empreinte d'espérance, en réponse toujours à l'éco-anxiété ambiante. Pour conclure, la loi de l'Ancien Testament, et notamment ce chapitre de Lévitique 25, confirme le sabbat hebdomadaire, instaure l'année sabbatique tous les 7 ans et l'année du jubilé tous les 5 ans. C'est une loi qui libère de la servitude du travail. C'est une loi qui protège et donne des droits, notamment aux plus précaires, veuves, orphelins, esclaves, étrangers. C'est une loi qui donne une nouvelle chance à chaque génération pour repartir, allégé de toutes sortes de boulets que les aléas de la vie attachent à nos pieds. C'est une loi qui réaffirme la bonté et la générosité du Dieu créateur, dont la création fonctionne tellement bien qu'elle peut fournir de quoi subsister en attendant les récoltes de la troisième année. C'est une loi qui remet l'humain à sa place sur cette terre, génération après génération. Ce n'est absolument pas une loi qui condamne et qui tue. Jésus, en lisant le passage d'Ésaïe 61, 1 et 2, annonce que le temps est venu de publier une année de grâce du Seigneur. Bonne nouvelle pour les pauvres, libération des captifs, recouvrement de la vue pour les aveugles, libération des opprimés. Tout au long de son ministère terrestre, Jésus, notre modèle, interprète, explique et applique cette loi. Selon le projet de Dieu, il ira même jusqu'à devenir la victime expiatoire qui nous libère. Que la réalité de cette libération puisse se manifester non seulement dans notre vie spirituelle, mais également dans notre engagement social, dans notre façon de travailler pour subvenir à nos besoins et à ceux de nos proches, et à notre façon de prendre soin de la création. Que cette réalité puisse nous inciter à nous engager pour que la justice et la paix dans nos sociétés et dans le monde fassent au moins des progrès. En attendant, que Dieu lui-même fasse aboutir son projet pour la planète et le monde vivant qu'il occupe. Amen.